L'histoire du centre Coiré, c'est l'histoire d'abord d'une sorte de lot de consolation où Alexandre Coiré, qui était candidat pour un poste de professeur au Collège de France, pour une chaire d'histoire de la pensée scientifique et qui était très soutenue par des gens de l'école pratique des hautes études, puisque ça s'appelait comme ça à l'époque, et même la sixième section, les sciences économiques et sociales, notamment Lucien Febvre, qui venait de prendre sa retraite du Collège de France, et Fernand Braudel, qui avait pris sa succession au Collège de France, soutenait beaucoup la candidature d'Alexandre Coiré pour être professeur au Collège de France. Et puis, cette candidature a échoué, c'est quelqu'un d'autre qui a été élu, c'est Martial Guéroux. Et donc, en guise de lot de consolation, Coiré, qui était directeur d'études à l'école pratique des études, mais dans la cinquième section, c'est-à-dire dans les sciences religieuses, mais qui travaillait sur Galilée, sur les sciences physico-mathématiques depuis le début des années 30, milieu des années 30, va obtenir un poste dans la sixième section, donc sciences économiques et sociales, dans 54. Donc l'échec, c'est en 51. En 54, il a cette direction d'études cumulante, comme on dit dans le jargon.
Ce sont des discussions entre Alexandre Coiré, partant pour les États-Unis, et Fernand Braudel, le grand historien auquel on doit l'école des hautes études, qu'est née l'idée d'avoir un centre dans lequel, au fond, on pourrait véritablement travailler. Et alors, c'était l'agenda de Braudel et d'Alexandre Coiré à la mise en histoire de la science.
En 58, donc, sur la proposition, avec le soutien très fort de Fernand Braudel, qui est le directeur de cette section, on va créer un centre qui s'appelle à l'époque Histoire des sciences et des techniques, qui deviendra le centre Coiré après la mort de Coiré. Donc Coiré meurt en 64 et il est donc renommé Centre Alexandre Coiré en 66. Voilà, voilà en gros pour le point de départ. Ensuite, c'est un des. À vrai dire, Coiré avait été à l'époque dans une situation de semi-nomadisme, puisqu'il était tout le temps en train de penduler entre les États-Unis et la France, entre les années, milieu des années 50 et puis sa mort, au début des années 60. Et donc, celui qui a véritablement occupé la fonction directoriale et qui a ensuite beaucoup fait pour façonner le centre tel qu'il a été pendant une bonne vingtaine d'années, c'était René Tatton, qui était mathématicien de formation, et qui a développé, qui avait des grandes, un rôle très important dans l'Académie internationale d'histoire des sciences, dans les institutions internationales de l'histoire des sciences, et qui a développé une histoire des sciences très centrée sur l'étude, l'édition des textes, donc on va dire philologiques et historiques. Et donc il y aura pendant une bonne vingtaine d'années, jusqu'en 83, deux pôles de l'histoire des sciences, essentiellement à Paris, et plus généralement avec un gros poids en France. D'un côté, le centre Coiré autour de cette étude des sciences physico-mathématiques et d'édition des textes, et puis de l'autre côté, l'épistémologie historique développée par Canguilhem, avec une dimension philosophique beaucoup plus forte. Donc ça dure pendant une vingtaine d'années, jusqu'en 83, avec donc une dominante sur les thématiques physico-mathématiques, et avec un tandem à la direction, René Tatton et Pierre Costabel. Donc tous les deux qui étaient agrégés de mathématiques au départ, et donc qui étaient venus des mathématiques vers l'histoire des sciences. Donc ça a donné un certain profil à l'histoire des sciences telle qu'elle était pratiquée au centre Coiré, qui a duré déjà pendant tout le temps où ils ont exercé leur fonction directoriale, mais encore après, évidemment, puisque leurs élèves étaient ensuite en poste, etc. Donc les choses changent, on va dire, au début des années 80, parce que le centre Coiré, qui était localisé en face de la Bibliothèque de France, enfin ce qu'on appelle de nos jours Bibliothèque de France, à l'époque Bibliothèque Nationale, rue de Richelieu, donc dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel de Colbert, va être contraint à déménager. Et c'est son nouveau directeur, Jacques Roger, qui est un historien des sciences de la vie du XVIIIe siècle essentiellement, biographe de Buffon, etc., qui va transplanter le centre au Jardin des Plantes, dans le pavillon Chevreul. Et donc là, va s'amorcer à la fois un déménagement, donc un changement matériel, un changement de site, de localisation, donc c'est symbolique, assez fort, puisqu'on passe du centre autour de la BN, les lieux de savoir bien particuliers, vers le muséum et le Jardin des Plantes, donc avec une toute autre tradition des savoirs naturalistes, et qui va imprimer une inflexion et un élargissement du panel des objets étudiés au Centre Coëré, une ouverture au savoir naturaliste qui n'était pas le cas jusqu'à présent.
Il faut, je crois, faire sa place à une première grande évolution qui a été l'ouverture des objets de recherche du Centre Coëré des sciences de la nature vers les sciences de l'homme, puisque très vite, les relations avec le Muséum d'Histoire Naturelle ont permis de mettre la question de la nature des collections au cœur des questionnaires. Et ça, on le doit à Jacques Roger.
Ça, c'est ce qui domine beaucoup dans l'élargissement des années 80, qui est aussi marqué par autre chose, qui est l'émergence de l'histoire des sciences humaines, qui commence à se cristalliser en France. Là aussi, un certain nombre de chercheurs du Centre Coëré vont avoir un rôle assez crucial. Et le Centre Coëré va devenir un des pôles, là pour le coup internationaux, de l'histoire des sciences humaines, puisque en France c'est quasiment le seul, mais à l'étranger il y a très peu de centres où il y a une dimension importante de l'histoire des sciences humaines. Et donc là il y a des acteurs comme Claude Lancarte par exemple qui ont été très moteurs dans cette affirmation, puis ensuite Jacqueline Carrois, etc.
Oui, c'est une construction assez spécifique du Centre Coiré. Il a été créé par des historiens des mathématiques. Puis la mécanique classique est arrivée avec le père Costabel notamment. Et puis d'autres chercheurs sont arrivés travaillant en particulier sur les sciences de la vie. Ce fut le cas de mon directeur de recherche Jacques Roger. Et à partir de ce moment-là, dans les années 1980-90, on a commencé à créer un groupe, sinon un groupe informel, mais en tous les cas un groupe de chercheurs intéressés à l'histoire des sciences sociales, à l'histoire des sciences humaines en général, qui n'étaient pas communément admises dans l'histoire des sciences à cette période et qui se sont trouvés installés très, très naturellement dans le Centre Coiré, un peu comme la terminaison d'une pyramide qui bouclerait la hiérarchie des savoirs, si l'on peut dire, quant à leur ordre d'ancienneté peut-être. Il faut savoir que nous avons créé en 86 la première société française d'histoire des sciences de l'homme, dont j'ai été aussi l'un des présidents, et il y avait donc une sorte de continuité logique à vouloir créer une structure d'enseignement et peut-être de susciter l'intérêt dans ces domaines pour des étudiants.
Donc ça commence au milieu des années 80. Puis Jacques Roger va mourir de manière assez subite à la fin des années 80, début des années 90, 1990 si je ne me trompe. Et à partir de ce moment-là, commencent encore de nouvelles phases de la vie du Centre Coiré. Voilà. Donc il y a la direction ensuite reprise par Roger Chartier, donc historien du livre.
Le Centre Coiré a pris sa forme actuelle et son importance en nombre de chercheurs au fil des années. J'ai connu dans les années, au début des années 1990, à l'époque de la direction de Roger Chartier, qui succédait à mon directeur de recherche Jacques Roger, un centre avec peu de chercheurs, c'était un centre avec quelques chercheurs de l'école des hautes études et du CNRS. Et le centre a pris en importance numérique et en volume aussi d'objets de recherche durant les années 1990.
Je pense que le troisième grand moment de cette histoire, c'est comment, avec l'arrivée de ce qu'on appelait les « science studies », fabriqués dans les mondes anglophones, entre l'Angleterre et les États-Unis, mais aussi en France, autour de Bruno Latour, la manière de penser à l'histoire des sciences a été bouleversée. Et il me semble que dans les 20 dernières années, à partir de la direction de Dominique Pestre en particulier, c'est cet ajout de perspectives épistémologique dont le centre Coiré a été le porteur.
Donc après Dominique Pestre prend la direction Jacqueline Carrois. Et à partir de ce moment-là, s'ouvre une ère où ce sont les femmes qui vont occuper la direction du Centre Coiré, ou des femmes plutôt, successivement. Donc Jacqueline Carrois, spécialiste de l'histoire des savoirs psy. Donc là, c'est un renforcement et une affirmation du rôle de l'histoire des sciences humaines aussi à travers elle qui est formulée. Puis Jeanne Pfeiffer, historienne et mathématique, et qui travaille aussi beaucoup sur les périodiques savants. Et puis maintenant Antonella Romano, qui, après avoir travaillé sur l'histoire des mathématiques, travaille sur l'histoire des savoirs missionnaires et qui fait entrer par ce biais à la direction un des autres aspects très importants de la recherche au Centre Coiré, qui est l'histoire transnationale des savoirs, puisqu'elle travaille beaucoup en interface avec l'histoire globale en travaillant sur l'histoire des missions et des savoirs missionnaires à l'époque moderne. Donc on a là une autre dimension aussi du Centre Coiré qui est mise en exergue par cette direction, qui est donc cette histoire transnationale du savoir qui fait partie des nouveaux grands pôles de la recherche en histoire des sciences et des savoirs à l'échelle internationale pour le coup.
Donc c'est une histoire qui est faite de tradition, mais c'est une histoire qui est aussi celle de la mémoire de ce qu'est l'histoire des sciences en France aujourd'hui. Il me semble que l'histoire du Centre Alexandre Coiré, c'est l'histoire de l'évolution d'une communauté dans les 50 dernières années.